Sénéchal. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Toute l'année 2013, les Chinois n'ont déboursé aucun sou dans les volets infrastructure du partenariat signé depuis maintenant 6 ans avec le gouvernement congolais. Pour cause, la RDC n'aurait pas respecté ses engagements en ce qui concerne notamment les garanties contre les risques politiques. Comment commentez-vous cette actualité? Si vous voulez participer à cette émission, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 43 39. Merci à Pierrot et la Mégie pour la réalisation de ce programme. Mise en onde par Dieudonné Nyangasa. J.R. Lungue et moi, le réel plaisir de coordonner et présenter ce programme supervisé par Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous aurons dans un instant à repasser de l'autre côté du standard pour vous proposer des interventions des uns et des autres. Mais en attendant, nous accueillons dans ces studios Charles Médard Ilunga, qui est le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux. Bonjour, monsieur Charles.
Bonjour.
Voilà, alors pour plus d'un observateur, donc le bilan du contrat chinois s'impose surtout dans son volet infrastructure pour savoir de quoi il retourne exactement plus de 5 ans. Alors après son entrée en vigueur, est-ce qu'on peut aujourd'hui nous faire une idée sur le bilan et qu'est-ce qui est déjà fait dans ces contrats dans les volets infrastructure?
Merci de la question. Ce programme ambitieux, comme d'aucuns n'ont cessé de l'appeler, c'est un programme qui a visé naturellement plusieurs projets à la fois, hein, donc c'est des projets multisectoriels. Vous avez par exemple dans le secteur de route, c'est vrai que ce projet a prévu pendant 4 ans la réalisation de près de 3500 km de route et 450 km de voirie. Et un certain nombre des projets, soit par exemple 145 centres de santé, soit par territoire un centre de santé, et 31 centres de santé dans les districts. Aujourd'hui, après 4 ans, disons que le bilan est assez mitigé dans la mesure où ces projets, déjà, s'il a bien fonctionné en son démarrage, 2 années après, ce projet a connu un déroulement un peu difficile, dû surtout au fait que certaines garanties n'étaient pas rapidement réalisées, hein, notamment aujourd'hui on parle de la protection même, hein, n'est-ce pas, de tous les accords, donc de la convention elle-même n'a pas été protégée, alors ce qui fait que le déroulement a été difficile en 2011, en 2012 et déjà en 2013.
J'ai parlé tout à l'heure de toute l'année 2013 où, disons, aucun sou n'a été déboursé par les Chinois dans son volet infrastructure. Vous avez parlé de bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux supputations, aux spéculations, on peut parler de l'arrêt du programme ou bien d'un programme qui connaît une panne?
Non, pas du tout. Pas de panne, pas d'arrêt. C'est un ambitieux programme qui ne peut pas du tout connaître d'arrêt. Nous devons plutôt dire que ce programme a connu un déroulement difficile, dû simplement à certaines formalités administratives. Aujourd'hui, vous savez, avec la mise en œuvre déjà de la SICOMINE qui s'est implantée depuis avril de l'année passée, et aujourd'hui, déjà avec le vote de la loi au niveau du Parlement, vous savez que la protection des investissements est une phase très importante. Aujourd'hui, que déjà c'est passé du Parlement au Sénat, nous disons que, en tout cas, l'espoir est permis. C'est tout simplement un déroulement qui a été difficile. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on remet en marche tout ce qui a été défini comme garantie, je crois que eh bien, le projet a toutes les chances, n'est-ce pas, de se dérouler normalement.
Alors, ce n'est pas un secret. La mi-année 2013, c'est-à-dire autour du mois de mai, nous avons tous observé le retrait de l'Exim Bank dans ce projet et dans ce programme. Est-ce que cela avait pénalisé le programme en soi, le programme sino-congolais?
Non, mais jamais, il n'a jamais été question d'un quelconque retrait d'Exim Bank. Vous vous rappellerez très bien que 5 ans, à l'issue de 5 ans du programme sino-congolais, le secrétaire exécutif s'est abondamment étalé sur cette question. Si commis, donc, Exim Bank n'a jamais donc fait partie de manière directe, n'est-ce pas, dans cette convention. La convention a été signée avec un groupement d'entreprises et la SICO, donc l'Exim Bank n'a été qu'une des banques. Donc Exim Bank, la CIB...
Donc c'était pas l'unique
non, disons que,
de ce programme.
Oui, si dans le cadre de la convention qui a été signée, finalement, c'est Exim Bank seule qui a pu être la banque qui a pu apporter
les capitaux,
mais Exim Bank n'est pas signataire de manière directe. Et il n'a jamais été question, d'ailleurs, que Exim Bank puisse se retirer.
Voilà, 3500 km de route, 450 km de voirie. Nous en saurons un peu plus en détail avec disons les auditeurs qui vont participer aussi dans les débats, parce qu'ils sont en tout cas à travers le pays pour nous faire une idée ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, et parce qu'il y a dans certains coins où des travaux qui se sont arrêtés par rapport au programme, parce que dans bien des cas on a parlé des préfinancements et on a comme l'impression que les Chinois, en attendant ces garanties, avaient aussi gelé ces préfinancements qui pourraient aussi avoir comme conséquence soit les ralentissements, comme vous l'avez reconnu, les travaux ont connu quand même des difficultés hein, pour atteindre quand même l'objectif. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Que le gouvernement a mené quand même des efforts, quel était le palliatif pour au fait faire avec en attendant que toutes les conditions soient réunies, notamment la loi sur les investissements et tant d'autres conditions. Alors comment vous vous êtes comporté pour garder un peu les caps? Parce que vous avez dit en début, c'était quand même, vous avez déjà pris l'allure.
Ok, disons, d'abord nous devons saluer la volonté des partenaires chinois, parce que vous savez, sans attendre de rassembler toutes les garanties, les partenaires chinois ont dû faire le préfinancement. Ils ont préfinancé et la première phase et même, n'est-ce pas, les débuts de la deuxième phase. Déjà au départ, 350 millions pour commencer et vous, aujourd'hui, à l'actif, nous comptons l'hôpital du cinquantenaire, vous en savez naturellement beaucoup. Nous avons l'esplanade du palais du peuple, nous avons des projets Kasomeno-Lubumbashi, c'est une route asphaltée de plus de 137 km. Vous avez la route asphaltée Beni-Luna, 60 km de route aujourd'hui. Et vous avez quelques projets tourisme Lutendele dans la ville de Kinshasa.
Beni Boutembo, c'est vraiment un véritable casse-tête pour les projets.
Beni Boutembo,
avec Sino Hydro.
Effectivement, vous avez parfaitement raison. Beni Boutembo, c'est des projets très importants, normalement, qui étaient inscrits dans la deuxième phase. Et c'est des projets aujourd'hui qui font l'objet de plusieurs discussions, vous savez, au niveau du gouvernement, parce que déjà au niveau de Boutembo, le projet avait été lancé avec beaucoup d'espoir, tout l'équipement a été mis en place, et même aujourd'hui, nous avons pratiquement l'ensemble du matériel qui est encore, une bonne partie, je veux dire, du matériel est encore en place, mais nous avons presque la totalité des matériaux disponibles. Et donc, déjà au niveau même du déroulement dans la phase d'exécution financière, l'entreprise a dû préfinancer presque à hauteur du deux tiers du contrat. Et aujourd'hui, ce qui reste, n'est-ce pas, va nous amener à faire ce que nous appelons la requalification du projet, de manière à terminer rapidement. Ce sont des projets qui sont inscrits dans la deuxième phase, et aujourd'hui que les choses sont en train de se clarifier, naturellement, ce sont des projets qui vont se poursuivre normalement.
081 890 43 39 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Nous recevons le premier auditeur qui est en ligne. Il nous appelle de Lubumbashi. Patient, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on revient à Kinshasa pour prendre Toto Kani. Toto Kani, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis avec vous, merci, bonjour.
Bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Vous avez la parole, comment vous commentez cette actualité?
Oui, d'abord, je crois que c'est vraiment un thème qui vaut bien la peine. Je me dis tout d'un coup, malheureusement, je n'ai pas toutes les données que pourraient avoir les techniciens en la matière, mais je constate qu'il est important, sinon impérieux même, dans la mesure du possible, dans le souci d'éclairer la population, qu'une commission parlementaire soit initiée manu militari en vue de s'enquérir de cette situation qui, du reste, porte préjudice au peuple congolais. Au-delà de cette mission, il serait aussi nécessaire que l'on prenne des sanctions, c'est-à-dire que le gouvernement prenne des sanctions à l'endroit de ceux qui seraient coupables et voir dans quelle mesure le même gouvernement peut rectifier les tirs pour les bénéfices de toute la population congolaise.
Voilà, j'ai difficile à comprendre surtout votre deuxième volet de l'intervention. Vous avez parlé de la commission parlementaire qui doit être initiée, hein. Ça c'est une proposition. Mais deuxièmement, vous parlez des sanctions. Sanctionner qui, pourquoi? Parce que c'est vrai que notre invité a reconnu tout à l'heure, le bilan est mitigé par rapport à des discussions qui étaient encore en cours avec les partenaires sur certaines conditions. Alors, donc, pour dire, il y a eu le préfinancement, une première partie des travaux a été faite, et aujourd'hui, pour la continuité, c'est vrai que le partenaire a posé quand même quelques conditions. Alors, quand vous parlez des sanctions, c'est l'endroit de qui? Contre qui?
Oui, quand je parle des sanctions, ça veut dire que déjà, quand vous trouvez le partenaire en train de poser certaines conditions, ça veut dire qu'il y a des endroits où il cherche à voir plus clair. Il y a des endroits où peut-être la donne n'a pas été respectée convenablement. C'est comme ça que, déjà, il faut saisir les taureaux par les cornes. Dès lors que l'une des parties commence déjà à présenter des réticences, il faut qu'il y ait une mission qui puisse descendre sur le terrain pour s'enquérir.
Oui, alors, pour vous faire une idée, Toto Kani, s'il vous plaît.
Oui.
Pour vous faire une idée, il faut noter que les investisseurs chinois voulaient, en tout cas, selon une indiscrétion, absolument avoir 100% de la sicomine pour compenser l'absence des garanties de l'État.
Oui, tout à fait. C'est encore un problème. C'est pourquoi je me dis qu'il faut absolument qu'on ait une mission. Cette mission, c'est elle qui va nous éclairer. Qui de la partie chinoise et congolaise est réellement dans ses droits? Qui de la partie chinoise et congolaise est lésée? Et dans la mesure du possible, sur base de résolutions ou de la conclusion qui en sortirait, c'est alors qu'on pourra tirer
des conclusions.
Des conclusions. Donc, à partir de là, on pourra tirer des conséquences de la mission qui sera initiée.
Merci
bien
beaucoup.
Sur la mission parlementaire à laquelle je faisais allusion tout à l'heure là.
Merci beaucoup Toto Kani d'avoir appelé de Kinshasa. Nous restons toujours dans la ville-province de Kinshasa pour retrouver Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour. Bonjour Julien, bonjour aussi à tous les compatriotes qui nous suivent à travers le monde entier.
Voilà, je l'ai dit tantôt, toute l'année 2013, les Chinois n'ont déboursé aucun sou dans les volets infrastructures du partenariat signé depuis maintenant 6 ans avec le gouvernement congolais. Pour cause, la RDC n'aurait pas respecté ses engagements en ce qui concerne notamment les garanties contre les risques politiques. Alors comment vous commentez cette actualité? Vous avez suivi votre prédécesseur Toto Kani.
Dans le moment, je peux commenter aussi cette situation d'une manière particulière qui m'intéresse uniquement mais que moi. Vis-à-vis de tout ce que nos partenaires chinois ont réalisé ici chez nous dans la ville province de Kinshasa, parce que je ne pourrais pas aborder d'autres situations que moi-même je n'ai pas vécues.
Mm-hmm.
En voyant le profond du pic pour m'attirer, pour arriver à l'aéroport,
voilà, Jean-Pierre, la qualité se détériore, on ne sera pas en mesure de vous garder le plus longtemps possible en onde. Si vous pouvez peut-être changer votre téléphone et puis on va vous relancer pour poursuivre avec vous votre intervention. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et aussi bonjour à l'invité qui est là au studio et à tous les compatriotes avec qui nous échangeons.
Alors, bienvenue dans cette émission, Franck. Comment commentez-vous cette actualité?
Je vous en prie pour la parole. Dès le départ, je dois d'abord rappeler qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre autour de ce contrat chinois. Je me souviens des débats houleux que votre radio avait organisé vers les années 2009-2010, ayant comme invité M. Pierre Lumbi. M. Gier, vous savez que en matière des accords, il faut que les bases puissent être égales. Quand un État va s'engager à signer des accords avec des individus ou avec un consortium de banques, ça peut toujours à la longue poser problème, parce que si un accord économique ou des accords sont signés entre État et État, il y a une certaine manière de voir un peu la traçabilité des préalables qui devaient être remplis de part et d'autre. Donc par là, je veux dire ceci. Ces accords ont été signés entre l'État congolais avec un groupe de banques chinoises. Mais jusqu'ici, le peuple congolais n'a jamais été au courant de toutes les clauses, de tous les préalables qui devaient être accordés de part et d'autre. Et les difficultés étaient déjà prévisibles. Quand on nous dit que les Chinois ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ça, c'est bien. Mais nous pouvons aussi nous poser des questions directes. Est-ce que dans ce monde, il y a des banques qui peuvent vraiment faire des cadeaux à un État? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut encore bien revoir les clauses qui avaient été faites. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'est-ce qui devait être rempli avant de s'engager? Et le compatriote qui venait d'intervenir, il a parlé de la commission parlementaire qu'on doit initier. Je crois qu'il a raison. Parce que en République démocratique du Congo, nous avons des compatriotes qui s'engagent, qui engagent l'État, mais en fait, l'État congolais ne bénéficie pas. Donc, c'est eux qui bénéficient. Donc, les gens qui s'étaient engagés pour ce contrat doivent d'abord arriver à dire au peuple congolais quels étaient les préalables de ces accords pour qu'on arrive là où nous sommes maintenant. Voilà, je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez défini, au fait, quelques éléments importants qu'on retrouve dans les accords qu'on signe avec des partenaires. Alors, vous avez déploré une chose, et il a fallu que ces contrats chinois ou encore le programme sino-congolais soient signés entre États. Et c'est fait malheureusement qu'on se retrouvait dans un contrat signé avec les différentes banques chinoises. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous connaissons certaines difficultés. On verra si notre invité pourrait abonder dans le même sens. Le temps pour nous de prendre Clément qui est en Boujimaï. Clément, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à M. Charles Médard, notre invité.
Vous avez la parole, Clément.
Je voudrais un peu revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit, mais en y ajoutant quelque chose. Nous disons juridiquement parlant que les contrats, c'est une convention. Et les conventions légalement formées entre parties tiennent lieu de loi. Et dans une loi, il y a le préalable, il y a les signataires et il y a une résolution en cas de différend. Il faudrait que Charles nous dise quel a été le préalable, quelle est la durée du contrat et qui a signé ce même contrat avec le gouvernement congolais, qui a signé le contrat avec les particuliers chinois. Qui est la personne qui a représenté le gouvernement congolais? N'y avait-il pas des juristes congolais?
Voilà, je crois que Clément, nous devons faire la part des choses en sa qualité du directeur général de la CGT, l'agence congolaise de grands travaux. Au fait, c'est l'agence qui exécute les programmes sino-congolais. Je crois qu'à ce niveau, le contrat a été signé, si je ne me trompe pas, entre États, donc entre disons les partenaires et les gouvernements congolais. Et l'agence a été créée pour exécuter ces programmes. C'est à ce niveau que nous devons, nous, à notre niveau, là où nous sommes, à travers le pays, visiblement voir si réellement ces programmes ont donné des résultats escomptés sur 3500 kilomètres des routes qui étaient prévues. Est-ce que vous avez vu au niveau de Mbujimaï, par exemple, la visibilité de ces travaux?
Bon, la visibilité, j'ai l'air pour bien dire, dans les 5 chantiers, vous savez bien sûr que Mbujimaï, donc le quartier oriental, n'a pas été visible dans les chantiers infrastructures, n'a pas été doigté du doigt par le programme gouvernemental, en dehors de ce que nous venons de voir récemment, l'installation des Chinois avec la CGCD et un tronçon de moins de 5 kilomètres qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est pas ce que je suis en train de dire. En cas de différend, quelle a été la résolution prise? L'arrêt des travaux, la suspension de travaux ou la prise d'un certain chantier ou d'une certaine carrière en compensation de ce qu'ils ont fait comme préfinancement. C'est ça la question que je voudrais retourner à M. Charles, qu'il nous dise un peu la finalité. Quand un contrat est conclu, il doit y avoir des articles prévoyant les différends et en cas de différends, comment les régler. Alors il faudrait qu'il nous dise, en cas de différends tels que nous sommes en ce moment-ci, il n'y a pas l'évolution, les bilans est mitigé. et ce différend-là, comment il doit être réglé. C'est ça un peu ma préoccupation.
Merci beaucoup, Clément. Voir ce qu'il s'agit là d'une question directe, M. Charles.
Merci. Merci pour l'intervenant, tantôt M. Patient, plutôt M. Toto Kani, à Kinshasa. Je crois qu'il a eu beaucoup de soucis, M. Toto Kani, au sujet notamment de... n'est-ce pas, il parle de la commission parlementaire, mais c'est des questions aujourd'hui qui me paraissent assez dépassées. Je crois que le compatriote doit savoir qu'aujourd'hui, il y a eu déjà une grande avancée. Donc nous tous, nous sommes là à dire que ce contrat a connu un déroulement difficile, mais nous sommes aussi là à dire que ce contrat note quand même une grande volonté des partenaires. Nous avons eu un accompagnement assez important des partenaires qui n'ont pas attendu que des garanties soient rassemblées complètement, qui n'ont pas attendu, qui ont posé des actes qui aujourd'hui sont bénéfiques pour le pays. Donc, et là, je suis en train pratiquement déjà de parler avec M. Clément, de l'apaiser, parce que vous savez, le programme aujourd'hui, quand nous l'évaluons, il n'a même pas encore atteint 30%, même pas 20%. Les quatre ans prévoyaient qu'on puisse décaisser 3 milliards de dollars pour doter la République des infrastructures structurantes. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas à 468 millions de dollars décaissés. Donc, mon compatriote Clément doit être apaisé parce que le déroulement normal du programme permettra de toucher la plupart des provinces. Donc, il s'agit bien de programmes structurants pour l'ensemble du pays. Donc, aujourd'hui, nous devons plutôt être satisfaits du fait que les partenaires ont marqué une grande volonté à aller de l'avant.
Oui, parce qu'il y a un bon nombre qui est revenu sur, au fait, les préalables. Est-ce que, au début, avant que le programme soit exécuté, est-ce qu'il y a eu des préalables qui ont été étudiés des parts et d'autres, qui, au fait, donnaient déjà une lueur, hein? Comme vous l'avez dit, c'est un programme ambitieux, un programme d'espoir, mais aujourd'hui, avec ces déroulements difficiles, au fait, ça commence un peu à inquiéter plus d'un, quoi.
Non, le plus important, c'est que nous avons déjà suffisamment avancé dans tout ce qui est comme préalable. Je vous ai dit que déjà la SICOMINE, qui elle garantit le remboursement de tout ce qui sera contracté dans le cadre de ce projet, dans le cadre de ce programme, je veux dire, la SICOMINE est déjà en œuvre depuis avril de l'année passée. Et aujourd'hui, un pas en avant au Parlement, la protection, la loi qui protège l'investissement a déjà été votée au niveau du Parlement et bientôt la loi sera, n'est-ce pas, votée au niveau du Sénat. Et c'est là maintenant ce que nous attendons. Donc le contrat, le programme va se dérouler normalement et les restes des 3 milliards sur les 468 sont déjà décaissés, moi j'ai dit, vont réellement être décaissés.
Alors, un travail qui n'est pas fait dans 4 ans, maintenant qu'on doit faire des réajustements, ça c'est sûr. Alors, ça va aller jusqu'à quand, pratiquement?
Eh bien, écoutez, ça va prendre le temps. Vous savez qu'au départ, c'était un programme de 4 ans. Donc, 4 ans pour commencer et consommer 3 milliards. Et après les 4 ans, on rediscutait. Donc, déjà aujourd'hui, il faut noter ceci, c'est que j'appelle ça avancer. Pourquoi? Parce que aussitôt que toutes les garanties sont rassemblées, ça permet une fois de plus à la République de pouvoir négocier davantage. Vous savez qu'au départ, je vous ai parlé de 3 500 km qu'on sort. Évidemment, c'était dans l'optique où on prévoyait déjà à peu près 6 milliards 200 pour les infrastructures. Mais j'ai dit qu'avec toutes ces avancées au niveau des garanties, au niveau de la SICOMINE qui est mise en place, nous pensons que nous irons au-delà même de ce qui a été prévu.
Alors si on peut avoir peut-être une cartographie de résultats que cela a donné au niveau de la partie Est, qu'est-ce qui est fait déjà? Et contrairement ou en comparant avec la partie ouest, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est vrai, on peut citer les cas de l'hôpital du Cinquantenaire, on peut citer les routes à Kinshasa, notamment le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin et tant d'autres travaux qui sont exécutés. Mais ailleurs, visiblement, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Naturellement, c'est un programme qui avait plusieurs projets et tous les projets, comme vous savez, devaient se mettre en marche par phase. Et vous savez, par exemple, qu'à Bukavu, déjà un contrat avait déjà été signé. Hein, je vous ai parlé de la deuxième phase, de 400 millions, qui devait se mettre en marche. Eh bien, à Bukavu, le projet a commencé, les équipements sont arrivés, les matériaux ont commencé à être produits. Mais écoutez, les déroulements difficiles du programme a fait que le décaissement n'est pas suivi et donc les travaux ont été arrêtés.
Donc si je comprends bien, c'était un problème de décaissement. C'est ce qui fait qu'on remarquait les engins qui étaient déployés sur le terrain et d'un moment, un moment à l'autre, c'était plus visible. Hein. On ne voyait plus les chinois sur le terrain et puis bon, pour d'une manière sporadique, ça revenait. Donc à dents de scie, on remarquait de va-et-vient. Mais voilà, on va repasser encore à nouveau. De l'autre côté du standard, Étienne qui est à Guémena, Maurice est à Kinshasa et puis ingénieur Mangoyo dans la même ville que Maurice. 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte. Le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Nous recevons Charles Médard Ilunga qui est le directeur général de la CGT, entendez par là l'agence congolaise de grands travaux. Et nous allons accorder la parole à cette deuxième série des auditeurs avec Étienne qui est à Guémena, Maurice à Kinshasa et ingénieur Mangoyo dans la ville province de Kinshasa également. Étienne, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Café.
Comment commentez-vous cette actualité?
Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Moi, je commencerai peut-être par répondre à certaines questions que les confrères ou les intervenants n'ont pas pu répondre. Surtout à ce qui concerne la visibilité et concrètement ce qui a abouti ou ce qui a fait le contrat avec les Chinois. Moi, dans le milieu où je suis, je dois vous avouer, monsieur le journaliste, qu'il n'y a aucune visibilité et on n'a pas de traces de ces activités du contrat que les Chinois ont
contracté
avec le gouvernement congolais pour qu'on puisse réhabiliter les routes. Monsieur le journaliste, moi, je ne comprends pas ce que le directeur, notre intervenant, le directeur des grands travaux, doit dire que les débits difficiles, je suis loin de comprendre ça. Ici, par exemple, à Guémena, les enjeux sont arrivés. On a vu les engins, on a vu les matériaux. Et quand la société chinoise a commencé les activités, et d'abord, le début de ces activités, ils ont commencé à faire un travail où on se demandait que est-ce que ce sont des stagiaires qui sont venus commencer les travaux pour acquérir des expériences. Donc, même les routes qui étaient praticables, dès qu'on a commencé à travailler, c'était encore difficile d'y passer. Quelques jours après, monsieur le journaliste, on nous dira, oh non, les travaux sont suspendus parce que la hiérarchie a dit ceci et les engins là sont retardés à construire. C'est ça. Et la nationale numéro 6 qui Guémena à Koula qui devrait être réhabilitée, rien n'a été fait. Et moi je me dis que si le directeur de grands travaux affirme que le débit est difficile, mais beaucoup de professeurs ont dit les préalables, monsieur le journaliste. Je pense que le directeur est expert en la matière. Donc, comment, si on a vraiment les soucis de son pays, on doit signer un contrat avec des partenaires. Tout un gouvernement, tout un État doit signer un contrat avec des partenaires. Oui, si ce sont des partenaires, qui sont ces partenaires-là. Mais c'est question de voir quel genre de travaux ces gens-là vont faire au bénéfice de la population. Mais nous sommes loin de comprendre et d'affirmer que ces gens sont venus, ils n'ont rien fait, mais bien même qui devraient être exécutés par les travaux. Donc, largement dépassé, et aujourd'hui, si on affirme que certaines choses ont été faites à l'ouest des consorts, non, mais Kinshasa
n'est pas
la capitale de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas le Congo.
Merci
on
beaucoup,
doit
Étienne.
Voir si quelque chose a été fait à Kinshasa, mais on
c'est
doit voir l'arrière-pays, dans des provinces, qu'est-ce qu'on a fait?
Merci beaucoup, je Étienne. Merci. L'invité va nous éclairer là-dessus, Étienne, par rapport à cette question. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, Maurice, pour commenter cette thématique.
En fait, JR, J'étais encore à l'étranger pendant qu'on parlait de ce contrat. Mais je dois relever une chose.
Que oui, d'abord c'est le chantier et aujourd'hui révolution de la modernité. Toujours dans le cadre de programme Sino-Congo.
C'est une vaste escroquerie, heureusement même limitée par l'Occident. À l'absence d'un parlement ici qui pouvait jouer ses rôles. Mais au moins nous avions quand même eu cette chance que l'Occident est venu vraiment à la rescousse. Il a sauvé quand même un peu la situation. C'est une vaste escroquerie où même les gens devaient s'enrichir en désordre, comme c'est toujours dans d'autres secteurs.
Oui, mais Maurice, c'est vrai que vous avez parlé de cette vaste escroquerie, mais visiblement, à Kinshasa, parce que vous y êtes, nous devons faire un pas en arrière, 15 ou 20 ans en arrière, le boulevard du 30 juin, aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être un petit commentaire par rapport même au boulevard de Lumumba?
En fait, comme vous avez évoqué ce problème de
parce que vous êtes à Kinshasa.
Je dois vous dire... Pendant que j'étais en Afrique du Sud, avant juste dans les préparatifs de la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, j'étais en Afrique du Sud, je voyais comment on était en train de réhabiliter les routes. Hein, si vous voyez par exemple, si vous quittez Johannesburg en allant vers Pretoria, hein, entre Midrand, il y avait ces boulevards-là qui étaient réhabilités. Je voyais comment on était en train de travailler le matériel qu'on utilisait. Hein? On voyait même, j'ai vu même, c'est la première fois que j'étais en train de constater qu'on utilisait même des barres de fer, hein? Comme on faisait quand même on relevait plutôt le lenton, là, comme on les dit communément dans nos jargons ici. Hein? Et on voyait comment la qualité, avoir la qualité des routes. Et regardez ici, prenons seulement les boulevards Lumumba ici.
Oui.
Les boulevards Lumumba. Vous allez constater que c'est un boulevard qui avait été travaillé depuis qu'on a terminé les travaux, qui sont toujours... en cours, vous allez constater qu'il y a même des nids d'oiseaux.
Est-ce que Maurice, parce qu'on dit toujours dans la vie, il faut commencer quelque part. Moi, je vous ai posé la question de savoir, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 20, même il y a 5 ou 10 ou 7 ans, le boulevard Lumumba n'était pas dans ses formats, le boulevard du 30 juin non plus. Alors, s'il faudrait aujourd'hui faire une critique vraiment objective, hein, c'est vrai à Kinshasa. Moi, c'est loin mon intention de défendre un peu qui que ce soit, mais au niveau de l'intervention tout à l'heure d'Étienne qui parlait de Guémena, où il y a eu des engins et puis, quelques jours après, on a vu des engins disparaître. Ça, c'est quand même une question qui peut être posée. Mais à Kinshasa, je crois qu'il y a quelque chose qui est fait. Il y a l'hôpital du cinquantenaire, il y a les boulevards qui ont été réhabilités. Aujourd'hui, même du côté de Massina, vous avez des faits de signalisation. Il y a quand même nos parents ou nos vieilles mères qui n'étaient pas habituées autrefois avec des faits de signalisation. Aujourd'hui, ils sont en contact avec ça. Bon, bref, je crois que c'est quelques visibilités que vous pouvez voir au niveau de la ville de Kinshasa.
Ça, ce sont des tombeaux blanchis que vous êtes en train d'évoquer.
Parce voilà.
Que s'il faut voir les coûts, hein, mm-hmm. avec lesquels ces infrastructures, ces œuvres sont réalisées, hein, JF, mm-hmm. vous allez quand même avoir pitié de ce pays. Hein. Vous allez comprendre.
Voilà. Est-ce que vous avez,
seulement, je vais vous donner un exemple.
Est-ce que vous avez suivi notre invité au début de
non,
cette
je
émission
vais quand même
quand il a parlé de préalable,
parce
de
que je suis en train de constater que vous êtes en train de
allez-y.
Boulevard, de me parler de feux qui sont en panne presque chaque jour. Je vais vous dire, je vais vous donner les coûts de la réalisation de certaines infrastructures.
Allez-y. Hein.
Vous allez voir par exemple le boulevard ici, le boulevard Triomphal, qui est, je crois, long de moins de 5 kilomètres, même de 5 kilomètres quelque chose, mais on va débourser 27 millions de dollars américains. Vous prenez le boulevard, le boulevard du 30 juin, où on débourse 83 millions de dollars américains. Et dans les normes, si vous prenez les normes internationales, au standard international, les routes, les bonnes routes qui sont fabriquées, vous allez voir qu'une route respectant les normes est réalisée, un kilomètre réalisé à 1 million de dollars
oui.
américains. Mmh. Et vous allez prendre les chiffres qui sont avancés ici. Mais c'est non, quand je parle de la voie, c'est escroquerie, donc je pèse bien mes mots.
Voilà, on va
évoluer. Les gens doivent venir afficher. Même voilà. Là, en Afrique du Sud, j'ai pris
donc
l'exemple
vous,
de la
vous
allez réaliser que quand vous allez, partout on réalise, partout on construit des routes, il y a toujours des panneaux d'affichage où on marque les coûts, on marque la source de
financement.
De provenance des fonds.
Mmh.
Vous comprenez hein? Donc, nous devons quand même être sérieux, M. Gier. Donc, quand on parle des problèmes de l'État, ces problèmes vraiment nous en âge, nous. Nous sommes des Congolais.
Merci beaucoup, Maurice.
Nous devons contrôler ce qui est en train de se passer.
Merci beaucoup, Maurice, de cette contribution dans cette émission. Nous passons, nous restons à Kinshasa toujours avec ingénieur Mangoyo. Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Bonjour, Gier.
Voilà, on va évoluer rapidement parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent et puis on va revenir à notre invité. Ingénieur Mangoyo, vous avez la parole.
Oui, monsieur Gier, merci pour la parole. Bon, écoutez, moi, Gier, ça ne m'étonne pas. Ce qui arrive ne m'étonne pas. Vous savez, Gier, notre pays, nous n'avons jamais tenu nos engagements. En tout cas, ce qui concerne les projets de développement et les marchés publics, vous savez, vous connaissez l'esprit qui prévaut dans notre pays. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui m'inquiète, moi, et ça m'attriste, moi, parce que vous savez, les Chinois ne sont pas seulement présents en RDC. Les Chinois...
Ils sont à Brazzaville aussi, au Congo-Brazzaville.
Dans d'autres pays, notamment en Angola, un peu partout là. Vous comprenez? Et même la plus grande puissance du monde, que les États-Unis d'Amérique, profitent du boom chinois. Voyez, j'ai. Mais alors, moi, je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent sur les Chinois. Je crois que nous devons nous-mêmes d'abord voir ce que nous faisons. Et je voudrais profiter de cette occasion pour poser quelques questions à notre invité. Vous savez, en matière de développement, en matière de réalisation des projets, il y a, par exemple, les bénéficiaires, qu'on appelle le maître de l'ouvrage. Alors, regardez les œuvres des Chinois. Ici, à Kinshasa, c'est vrai, on a construit, on est en train d'y habiter par-ci, par-là, mais il appartient aux bénéficiaires, le maître de l'ouvrage, de pouvoir être regardant et faire un bon suivi. Quelqu'un a parlé de la qualité
du travail.
Et il a raison. Regardez sur le boulevard, par exemple, les dalles, là, sur les passages de piétons, là, à partir de Biak, là, vers INSS jusque-là. Regardez la qualité de ces carrelages-là. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, les grands travaux, est-ce qu'il y a des dispositions, est-ce que le maître de l'ouvrage, est-ce qu'il a quelles dispositions il a prises pour veiller à la qualité de l'ouvrage? Ça, c'est un. Des deux, est-ce que, pourquoi nous préférons les Chinois? Mais les Chinois, ils ont des conditionnalités qui sont favorables.
Favorables, oui.
Alors, si les États-Unis d'Amérique et certains pays africains, les choses marchent bien, pourquoi chez nous ça ne marche pas? Mais c'est parce que nous n'avons pas la culture du travail bien fait. On laisse, quand les Chinois travaillent sur le terrain, est-ce qu'il y a des représentants du gouvernement? Est-ce qu'ils sont là, ils suivent comment travaillent les Chinois? Je ne pense pas, sinon, comment expliquer cette mauvaise qualité de carrière?
Voilà, je crois que ceux qui ont suivi, Général Mangoyo, allez-y rapidement.
S'il vous plaît. Et puis, dans les priorités, vous savez que les Chinois peuvent nous faire profiter dans beaucoup de choses. Moi, je pense qu'en ce qui concerne les infrastructures routières, il faudra faire des priorités. Par exemple, réhabiliter, développer les routes des dessert agricoles. Ici, à Kinshasa, par exemple, il y a des communes urbano-rurales. Mais ces communes-là, telles que Malouka, telles que... Mais si ces routes-là, si dans la planification, dans la programmation, on pouvait réhabiliter ces routes-là ou construire les routes-là, vous voyez que...
Ça pourrait arranger les choses. Merci beaucoup, Mangoyo, voilà, d'avoir appelé.
Donc,
la faute
n'est pas aux Chinois, c'est voilà. La faute à nous.
Voilà, c'est ceux qui, en fait, ont suivi quand même les programmes de Radio Capi dans les cadres de Zigzag. Hein. Il y a Étienne Kalema et Pamela Amunazo qui ont proposé d'ailleurs une fois la descente sur les routes de Kinshasa. Ben, je crois dans les jours à venir, ils pourraient aussi le faire, pourquoi pas, dans d'autres villes, hein, avec la CGT qui, en fait, a expliqué en loin et large ce qui s'est fait sur le terrain. Donc, on peut dire, pour répondre à votre préoccupation, que sur le terrain, il y a quand même des représentants du gouvernement. Monsieur Charles, une réaction à chaud par rapport à cette deuxième série des auditeurs.
Je suis très heureux de la question du compatriote Étienne depuis Guémena. Alors, je voudrais simplement donner des précisions à ces compatriotes. Vous savez, le programme sino-congolais est un programme précis. Il ne s'agit pas de voir un Chinois et de pouvoir penser tout de suite au projet du programme sino-congolais. Donc, les Chinois sont au Congo dans le cadre de plusieurs projets. À Guémena, il y a certes des Chinois pour deux projets. Il s'agit, j'imagine, de projets avec notamment la Régie des Eaux. Donc, je crois que ces Chinois ne sont pas venus travailler dans le cadre du programme sino-congolais. Donc, le programme sino-congolais est un programme clair. Il a des projets, un certain nombre de projets. Il a des mécanismes de suivi tout aussi clairs. Alors, je voudrais, il a parlé de la visibilité, j'ai dit aussi aux compatriotes que dans les cas du programme sino-congolais, on a par exemple, on a identifié des centres de santé dans chaque territoire. Donc il y a 145 centres de santé dans chaque territoire. Alors, laissons le programme se dérouler normalement, la visibilité viendra de soi. Alors, je rejoins cette fois-là maintenant le compatriote Maurice qui, lui, par son expérience passée ailleurs, à l'étranger, en Afrique du Sud, il regarde autrement les infrastructures qui se passent en Afrique du Sud par rapport à ce que nous faisons chez nous. Je crois que je dois plutôt, de façon générale, dire aux compatriotes qu'il faut changer la façon de voir notre pays. Nous devons apprendre à voir notre pays autrement. C'est notre pays, nous devons savoir être objectifs dans la manière d'apprécier ce que nous faisons. Aujourd'hui, je dois vous rassurer que tout ce qui s'est construit dans le cadre du programme sino-congolais, c'est des ouvrages durables, faits selon les normes, faits selon les standards, et c'est des ouvrages qui tiennent et qui tiendront longtemps. Dans ce pays, vous savez, les assainissements étaient pour la plupart toujours surdimensionnés. Quand il pleuvait, visiter beaucoup d'avenues, mais je crois que les standards n'étaient pas respectés. Aujourd'hui, les Chinois nous ont amené, n'est-ce pas, des assainissements qui conviennent. Donc, d'abord, avant de construire, il y a des études préalables qui sont réalisées, des études hydrauliques, qui permettent d'adopter des dimensions conséquentes. Aujourd'hui, je crois que les ouvrages construits par les partenaires chinois, c'est des ouvrages de qualité et qui répondent à des standards. Donc, le matériel utilisé par les Chinois, c'est des matériels de qualité. Aujourd'hui, tout le monde va en Chine pour chercher du matériel. Et nous avons, donc, tout ce que nous pouvons vous dire est vérifiable. Nous vérifions. Vous savez, je dois vous dire que dans l'accompagnement même de la mise en œuvre, nous sommes en train de procéder. Nous recrutons des bureaux de contrôle. Et, par exemple, dans les cas de certains projets, aujourd'hui, nous recrutons des missions de contrôle étrangers qui certifient la qualité des ouvrages qui sont produits.
Est-ce que les calculs faits par Maurice, lorsqu'il parle de 83 millions pour le boulevard du 30 juin, 27 millions pour le boulevard Lumumba, bon, le calcul, comme il a dit, hein, 1 km, 1 million par rapport à la distance, est-ce que les calculs sont bons?
Là aussi, c'est dommage. Je crois que j'aimerais renvoyer le compatriote sur le site officiel de la CGT. Il trouvera tous les rapports sur tous les contrats. Et là, je crois qu'il sera édifié. Et je dois rassurer aussi, il a parlé de l'affichage de prix. Mais nous affichons toujours les prix. Je crois que vous nous avez reçu plusieurs fois sur Radio Capi. Ce sont les prix, nous vous les donnons tout de suite et automatiquement. Donc, il n'y a pas de difficulté quant à afficher les prix. Alors, quand les compatriotes tirent au hasard $1 million le kilomètre comme étant la référence pour pouvoir définir le coût unitaire de la route, mais je crois que le compatriote doit se dire, il doit savoir nuancer de quoi il parle. S'il parle d'une route rurale, s'il parle d'une route urbaine, quel est l'équipement de cette route? Vous savez, aujourd'hui, la route, il faut savoir tout ce qui l'accompagne. Aujourd'hui, quand je vous donne le coût du boulevard Lumumba, je vous dis $148 millions. Mais j'essaie de vous dire, il y a là-dessus, il y a 6 grands ponts, il y a des dallos, il y a, il y a l'éclairage public, il y a les trottoirs pavés. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir rapporter au kilomètre de la route.
Avant d'évoluer, M. Charles Bédard Ilunga, c'est vrai qu'à Kinshasa, il y a quand même une certaine visibilité, mais c'est que le bonhomme de Kinoa déplore également, hein, c'est l'abandon des travaux, l'arrêt des travaux, sans une explication quelconque. Il y a un auditeur qui nous a fait un message là au niveau de Bypass, par exemple. Au niveau de Bypass, les travaux faits au niveau de Lemba et terminés, les travaux se sont arrêtés comme ça, sans aucune explication. Nous prenons encore un autre cas, c'est celui de la route Mouchi, l'avenue Mouchi, qui a été en tout cas impeccablement réhabilitée. Mais arrivé au niveau de la rivière de la Gombe, les travaux se sont arrêtés. Actuellement, on est suffisamment avancé, mais on se rend compte qu'on est loin vraiment de terminer vite les travaux, parce que le pont est jeté, mais le véhicule ne passe pas encore. On peut encore aller plus loin, sur le boulevard Lumumba. Vous quittez l'échangeur délimité. Quand vous arrivez à la première rue, vous remarquez que c'est vraiment des travaux vraiment inachevés. Alors, qu'est-ce qui fait cela ?
Eh bien, merci de la question. Là aussi, j'aime bien qu'on puisse recadrer les choses. Je crois que nous parlons essentiellement du programme sino-congolais. Alors, lorsque vous parlez l'avenue Bypass, par exemple, là, il s'agit bien d'un projet financé par le gouvernement. Hein. Donc là, je crois que la mise en place du financement pour 2014 est déjà programmée. Il n'y a donc pas de problème. Et alors, pour d'autres avenues, donc Mouchi notamment, ça relève de la voirie urbaine et c'est pas donc financé par le gouvernement. Donc là, je dois vous dire que dans le cadre du programme sino-congolais, le seul projet qui ont connu l'arrêt, là j'ai dit, c'est le projet de la route Nyangezi-Bukavu-Nyangezi, c'est à 5 km. Et c'est le projet de Butembo. Donc deux projets qui ont connu des arrêts dus, comme je vous ai dit, aux problèmes, difficultés de décaissement de fonds. Donc il n'y a pas, en dehors de ces deux projets, vous ne trouvez pas un projet qui est à l'arrêt.
Les écoles, les centres de santé, il n'y a pas eu d'arrêt ?
Non, il n'y a pas eu d'arrêt parce qu'il n'y a pas eu début. Il n'y a pas eu début, c'est des projets qui vont être programmés.
Nous allons prendre une dernière série des auditeurs avant que nous puissions passer à la conclusion de cette émission. Maître Mogili Amagi, Amouri à Kamina et Papi à Kinshasa. On commence par Amouri, je crois. Amouri, vous êtes avec nous à Kamina, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est votre commentaire? Voilà, dommage, Amoury, vous êtes en direct. Si vous êtes distrait, en tout cas, on sera obligé de changer un peu de ligne. On va prendre Papi Pito qui est à Kinshasa. Papi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, c'est Papi Kachema, monsieur le journaliste.
Voilà, Papi, vous êtes à Kinshasa. Quel est votre commentaire?
Oui, je remercie d'abord l'invité parce que j'ai suivi toutes ses préoccupations et je crois qu'il a déjà épuisé l'essentiel. Mais je veux seulement dénoncer un fait, monsieur un journaliste. Avant de dénoncer le fait, je veux d'abord savoir si l'invité peut nous dire est-ce que l'achat des grands travaux n'a pas de représentation au niveau provincial ou au niveau local. Parce que nous nous rendons compte que les gens qui sont à l'intérieur du pays souffrent surtout pour évacuer leurs produits agricoles. Là, je vais dénoncer un fait, par exemple, chez moi, dans les pays Congo, là, dans le secteur de Massimani, Mbalabandundu, il y a des frères qui souffrent là-bas, donc, qui ont beaucoup de produits agricoles, mais qui n'ont pas vraiment de bonnes routes pour évacuer cela. En plus de ça, il y a un bac qui se trouve au niveau de Bumba Tsefak, donc avant de traverser ce bac-là, pose problème, il est en panne, ça fait longtemps, alors que ces frères-là souffrent, alors que Kinshasa a besoin de ces produits-là. Comme vous le savez, comme moi, monsieur le journaliste, que le pays Congo est parmi les secteurs qui produisent beaucoup de produits agricoles, et tout le monde le sait ici à Kinshasa. Le mien serait de nous dire, l'invité qui est là puisse nous parler, est-ce qu'ils n'ont pas signé un accord de partenariat, par exemple, avec l'office des routes qui est chargé au suivi ou l'entretien de ces routes au niveau de l'intérieur. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Papi, à vouloir avoir des précisions sur le partenariat entre la CGT et l'office des routes par rapport à l'exécution de certains travaux dans les provinces. Amouri, vous êtes à Kamina. On va vérifier si la ligne est très bonne. Vous êtes avec nous, Amouri?
Oui, bonjour, monsieur.
Voilà, ça s'est amélioré. Alors maintenant, vous pouvez commenter.
Je remercie donc notre invité pour tout ce qu'il a dit. Et voilà que moi j'avais une question à lui poser concernant donc cette convention qu'ils ont prise avec la population chinoise. Concernant donc, nous voyons que dans des provinces, des grandes provinces, pas dans des districts, il n'y a pas assez d'évolution. On ne sait pas cette convention est prise pour des provinces ou bien c'est pour toute la République démocratique du Congo. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur Charles Bédard, comment vous réagissez?
Eh bien, merci pour notre frère Amoury à partir de Kamina. Je crois que je l'ai dit, le programme Sino-Congolais, le programme des premiers 4 ans, concerne l'ensemble de la République. Vous êtes à Kamina. Vous savez que de Kamina, vous voulez aller à Mouenéditou, vous voulez aller à Ngouba. Vous savez que le programme Sino-Congolais avait prévu, par exemple, de moderniser la route qui partirait de Ngouba à Mouenéditou. Donc voilà, pour vous dire que ce programme ne s'est pas encore mis en marche, mais il concerne toute la République. Ce programme a visé le chemin de fer. Je vous ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est 3200 km de chemin de fer qui était visé. Et vous savez, quand on parle chemin de fer, non seulement il y a d'abord la réhabilitation même des infrastructures qui sont déjà dégradées complètement, mais il y a aussi la construction des nouvelles voies. Il était par exemple prévu qu'on puisse par exemple construire les chemins de fer de Ilebo à Kinshasa. Et donc, je crois que le compatriote qui était à Kamina doit savoir qu'il est par exemple prévu de construire 4 universités dans le cadre du programme Sino-Congolais. Et donc, il faut attendre le déroulement du programme. Il faut attendre, il y a beaucoup de projets. Le centre de santé concerne notamment Kamina. Donc, il y a beaucoup de projets. Alors, pour revenir rapidement sur Papi, qui lui, je crois qu'il est plutôt très intéressé au développement du milieu rural. Je pense que là, je dois plutôt apaiser aussi Papi, que le programme Sino-Congolais, les premiers programmes concernent essentiellement les infrastructures structurantes à grand impact sur la croissance, qui apportent notamment beaucoup de débouchés en termes de ressources, en termes d'emplois. Et donc c'est un programme qui est vaste pour des infrastructures structurantes. Mais au-delà de ça, vous savez que le gouvernement de la République a plusieurs programmes avec l'Office des routes, avec les routes et dessertes agricoles, avec l'OVD. Donc, et là, nous ne sommes que dans le secteur des routes.
Voilà, on va revenir à vous pour conclure. On prend juste Roger pour 30 secondes. Roger, vous nous avez rejoint, vous avez besoin d'intervenir. Bonjour Roger.
Bonjour monsieur le journaliste.
En 30 secondes, comment vous commentez cette thématique?
Vraiment, je suis désolé de prendre l'émission à la fin, mais je voudrais seulement parler d'une chose. Je rentre un peu dans le sujet pour dire aux directeurs et aux dirigeants de ce pays de cesser de se tromper de la population. On ne doit pas se moquer de la population. Si vous voyez dans tout ce que nous parlons, c'est parce qu'il n'y a pas la transparence, il n'y a pas une gestion cohérente de la chose publique. Pendant que vous signez un accord, vous signez un contrat, le tenaille aboutissant doit être clairvoyant. À travers l'Assemblée nationale, les gens doivent être informés que ça doit commencer de tel endroit jusqu'à tel endroit. Aujourd'hui, au milieu comme ça, on commence à titiller et à chercher des raisons. Donc moi, je dis qu'on n'aura pas à nous convaincre et il doit savoir aussi que de ce qu'il parle, nous voyons ce qui se passe, nous voyons ce qui se réalise sur le terrain. Nous n'avons pas besoin de nous parler de trop de discours, non. Nous voulons voir.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger.
Dans toute la République.
Merci beaucoup.
Parce qu'il y avait un mandat que nous avions voté notre président de pouvoir le réaliser.
Merci beaucoup, Roger. Roger, merci. On a plus assez de temps. On va conclure avec notre invité pour le Perspective 2014 dans le cadre de ce projet programme Sino-Congolais. Monsieur Charles Bédard, vous nous avez dit les programmes ne s'est pas arrêté. On n'a pas connu une panne. Donc, le programme se poursuit. Et quelles sont les perspectives d'avenir pour cette année 2014?
Ok. Alors, je crois que c'est le plus important à dire. C'est que il faut que le programme se déroule normalement. C'est notre plus grand souhait. C'est notre plus grand souhait parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, la SICOMINE est en train de se mettre en place de la meilleure façon, de manière à garantir le remboursement. Et nous pensons réellement que ce programme est un programme très important. Il faudrait que nous fassions tout, que chacun des acteurs congolais, que nous tous, population ou quoi, en fait, nous puissions tout faire pour que ce programme se mette réellement en marche. Alors, comme perspective immédiate pour 2014, vous savez, pour 2014, normalement, les budgets seront encore faibles, par exemple. Nous savons qu'il est prévu déjà un budget de 53 millions, mais aussi, il y a des discussions de manière à rallonger ce budget grâce à une récupération d'un crédit sur un autre projet du barrage de Busanga. Alors, je crois que ça permettra que nous puissions identifier rapidement un certain nombre de nouveaux projets. Hein, ça ne sera pas nécessairement les anciens projets qui sont déjà définis. Et c'est naturellement en termes de priorités. Nous n'avons pas aujourd'hui des ressources qu'il faut disperser. Les ressources doivent être engagées de manière prioritaire. Je crois que 2014, nous sommes déjà en activité. Vous savez, nous sommes à Kisangani maintenant avec les maisons préfabriquées. Nous sommes en train de présenter quelques maisons témoins à Kinshasa, de manière à ce que, au départ de cette première campagne, cette première phase promotionnelle, nous puissions savoir comment réorienter le projet de l'habitat social. Donc, je crois que 2014 se présente, inaugure beaucoup d'espoir. Eh bien, le Parlement vient d'annoncer, en votant la loi, je pense que c'est un pas en avant. C'est un pas en avant.
Merci beaucoup, Charles Médard Ilunga. Nous rappelons que vous êtes le directeur général de la CGT. Entendez par là l'Agence congolaise de grands travaux. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous dis merci.
Et surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio. À merci. Très bientôt, Charles.
Eh bien, merci.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Dieudonné Nyangasa qui a assuré la mise en onde de cette émission. Pierrot Elamegi l'a réalisé et Jir Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. L'Angola a suspendu l'importation du carburant à la RDC du côté de certains postes frontaliers. Ceci dans le cadre de la lutte contre la contrebande de ces produits entre les deux pays frontaliers. Au Katanga, des importateurs congolais qui tentaient de traverser avec du carburant ont été tabassés dimanche dernier par les Angolais dans la cité de Luao. Par ailleurs, au poste frontalier de Lufu dans les Bas-Congo, les importateurs n'opèrent pas en toute quiétude. Cette affaire relance donc le débat sur la problématique de l'exploitation de l'or noir en République démocratique du Congo. Comment commentez-vous cette affaire? Enregistrez-vous déjà pour le débat de demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.